Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Biaisée, le barbecue, dans lequel nous allons rentrer dans les détails d'une nouvelle série aujourd'hui qui s'appelle Le Serpent, diffusé sur Netflix. Dans les épisodes précédents de Critique Biaisée, le hors-d'œuvre que vous avez pu consulter, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, lundi dernier, nous avons mis au Serpent collectivement une note de 4,9 sur 10. Autour de la table pour discuter en détail du Serpent, au travers de chroniques à la fois drôles et instructives, nous avons Pierre. Salut Pierre.
Et salut.
Romain.
Salut.
Benjamin.
Bonjour à tous.
Et Olivier.
Yo.
Et celui qui parle beaucoup dans vos oreilles depuis tout à l'heure, c'est Thomas. Nous allons d'abord, avant de parler en détail du serpent, je vous ai préparé une petite question blitz, juste très rapidement, et ça va sans doute introduire, et vous allez sans doute raconter des anecdotes. Je sais qu'Olivier en a une, il l'a teasé tout à l'heure, enfin dans l'épisode précédent. Si on vous offre à boire quand vous êtes en voyage, est-ce que vous dites « Ouais, carrément, vas-y, envoie en picole !» Un inconnu, un genre que vous venez de rencontrer dans un bar, n'importe où, au fin fond de l'Asie, à New York, n'importe où, bonne pratique de voyageur. Est-ce que vous dites « Yay » ou est-ce que vous dites « Ouais, non, je vais passer !» Est-ce que vous êtes aventurier au point de vous laisser berner ? Pierre, qu'est-ce que tu dis à une invitation à boire d'un inconnu que tu as rencontré il y a 5 minutes ?
Moi, je pense que j'échange les verres, déjà, direct. Mais après, ouais, je bois, parce que voilà, quand t'es dans ces situations, tu refuses pas un verre gratuit, quoi, c'est évident. Okay, après c'est un peu gênant pour moi parce que je me suis plus souvent retrouvé dans des situations inverses. C'était moi qui donnais des verres drogués à des gens dans, enfin tu sais, à des touristes, donc
Interpol, bonjour. Romain, toi tu ferais quoi?
Non, moi je bois plus. De toute façon, je bois plus tout court, moi, depuis la série. Je ne bois plus, en fait. J'ai compris que c'est quand tu bois que t'as un problème. Donc, du coup, toute une semaine, j'ai pas bu. Non, mais oui, c'est plus simple. Non, mais pourquoi on boit déjà, je sais même pas.
T'es un peu palichon.
Ouais, non, mais ça va. Mais déjà, la bouche un peu sèche, mais sinon, ça passe.
Benjamin.
Moi, ouais, ça m'est déjà arrivé, en fait, de le faire. Quand j'étais en voyage au Pays de Galles, et j'étais pour le Nouvel An, on était en boîte et tout, et t'as deux Anglais qui ont avec une bouteille, qui avait ramené une bouteille de champagne. Vas-y, bois et tout. J'aurais pu tout à fait me faire droguer. Mais en fait, je pense que si jamais je suis tout seul dans un pays que je connais pas, je pense que je suis extrêmement prudent. Mais tu sais, si je suis avec un groupe de potes, ouais, tu vois, bon, on est plusieurs, donc peut-être.
Ok, tu te laisserais berner comme ces backpackers une vingtaine
comme
de mois.
Comme une merde.
Puis là, avec des Gallois, ils en avaient pas autour de ton porte-monnaie. Hein.
Tu ferais quoi, Olive?
Ouais, bah, je pense que je ferais la même chose. Enfin... Le truc qui est cool quand tu voyages, c'est un peu de t'abandonner, d'accepter un peu les opportunités, tu vois, de dire un peu être le yes man, quoi. Dire oui un peu à tout ce qui se présente parce que c'est là où tu fais des super rencontres. Donc je pense qu'en fait, t'es clairement une victime facile dans le cas de ce tueur. Et oui, je crois que moi, j'accepterais forcément, enfin. Hein, ouais, sans hésiter.
Ok, faut être aventureux. Et moi, pour ma part, pareil, hein, je me souviens, Olivier, je sais que tu as beaucoup parlé d'Inde, mais dans un bar en Inde où nous avons picolé avec une dizaine de personnes inconnues à se payer des verres, etc. Mais ça aurait pu arriver tellement de fois, cet épisode. C'est le seul truc qui m'a mis mal à l'aise dans cette série, mais nous y reviendrons.
Ouais, c'est clair.
Nous allons parler
Tom, je te coupe deux secondes parce que je m'attendais vraiment avec toi à une question blitz à la Cyril Hanouna, quoi. Alors les petites beautés, c'est qui votre serial killer préféré, les gars? Hein? C'est qui?
Si vous deviez tuer quelqu'un, comment vous y prendriez?
Mais c'est vrai que j'attendais des trucs dans ce sens.
Pourquoi Hanouna? Pourquoi?
Parce qu'il y a que lui qui m'a posé cette question.
C'est vrai.
Ou toi.
Je peux vous appeler mes petites beautés si vous aimez. Donc,
tu le fais déjà hors caméra en plus, alors pourquoi pas le faire maintenant?
C'est vrai. Non, mais mes petites beautés, du coup, ce que je vous propose là de suite, ma petite beauté Romain, ma beauté favorite du sud de la France, s'il te plaît, fais-nous rayonner. Hein, nous sommes dans le sud, hein, n'est-ce pas? Nous allons parler de l'histoire vraie. L'histoire vraie, parce que Charles Sobhraj, tueur en série français, etc., nous allons le découvrir. Alors, nous l'avons découvert au travers de cette série de fiction dans laquelle les dialogues ont été inventés, il y a eu quelques permissions de fait, mais derrière, il y a une histoire fascinante qui est vraie, et nous pensions, dans Critique Biaisée, que vous la rappelez d'ores et déjà, avant de rentrer dans le fond du sujet, dans la série, dans tous les échecs ou succès de cette série. Rappelons les faits, peut-être, Romain?
Oui, on va rappeler les faits, c'est un peu long. Si vous vous emmerdez, vous me le dites et on passe à la suite. Hein. Enfin, je préfère être... voilà.
Donc nous passons au
flou.
Segment suivant.
On passe à la suite.
Allez, à la semaine
prochaine. Pire intro du monde.
Non, mais je préfère prévenir, parce que c'est long et et c'est flou. En fait, son histoire est floue, donc c'est ce qu'on sait plus ou moins. Mais il y a vraiment pas trop de certitudes sur ce mec, donc de toute façon, c'est un peu compliqué. Donc on est parti. Donc Charles est né à Saïgon en 44, de père indien, de mère vietnamienne. Son père le délaisse totalement, hein, donc il est quasiment livré à lui-même dans les rues d'un Saïgon en pleine guerre. Hein. De son côté, sa mère l'a abandonné. Donc tout va bien pour partir vivre sa vie en France avec un militaire français du coup. Et mais elle revient le chercher, trop sympa, en 1953. Donc il a 8 ans en gros et il va donc continuer sa vie en France. Pour son premier couac, on est en 1963. Il a donc 19 ans, il va faire son premier tour en prison à Poissy pour un vol de voiture. À partir de là, il fait des petites conneries à droite à gauche, puis tout commence en 70. Donc 7 ans, il y avait eu 7 ans, sept ans avec des petites conneries, en 70 ça va commencer. Il est sous le coup d'une nouvelle condamnation, il va donc décider de partir, et il va partir à Bombay, avec sa femme Chantal, où ils vont avoir donc du coup à Bombay leur petit bébé. Et c'est en Inde du coup qu'il va commencer à obtenir son surnom du serpent. Donc il va se spécialiser dans la vol de pierres précieuses, qu'il va revendre, et il commence à exceller dans sa future spécialité, le vol de passeports et d'argent. Son mode opératoire sera immuable. Il se lie d'amitié avec des jeunes routards, leur donne des conseils, des petits bons plans. Il est toujours sympathique, inspire la confiance. Les conversations se poursuivent toujours autour d'un petit verre. Et l'occasion pour Sobhraj, du coup, de les droguer discrètement et de dérober ses proies plus tard. À l'époque, il ne tue pas. En 70, normalement, de ce qu'on sait, il a tué personne. En 71, il va signer son premier coup de maître. Il va séduire une danseuse américaine, Gloria Mandelic, pour avoir accès à sa chambre, qui se trouve à la verticale de la bijouterie de l'hôtel. Comme ça, il va dérober la nuit, en faisant un trou dans la chambre, il va passer dans la bijouterie, dérober des sacs de bijoux, et faire son larcin. Sauf que la police le grille assez facilement. Quelques jours plus tard, il est retrouvé et envoyé en prison. À partir de cette prison, du coup en Inde, il est arrêté et va s'évader, comme on le voit dans la série, en simulant une crise d'appendicite. Donc du coup, il est recherché en Inde, donc il s'en va. À partir de là, il va voyager de la Turquie au Pakistan. Il va avoir des nouvelles arrestations et de nouvelles évasions à Kaboul en 73, en Grèce en 75. Entre-temps, avec ce cycle infernal de délits, sa femme Cantal va le quitter pour rentrer en France.
Sa femme est devenue un département.
Sa femme Cantal.
Cantal, ouais.
Chantal, elle aime le Cantal, pour ceux qui connaissent, merci.
Ok, ben vivement la prochaine copine Rocamadour, du coup, mais très bientôt.
Ah, vivement. Et c'est à partir de ce moment, fin 75, que ça va tourner un peu au vinaigre. J'ai perdu ma fiche, voilà. Non, voilà. C'est à partir de 75 que la violence va commencer. Il va partir de la Grèce où il est recherché encore pour s'installer à Bangkok dans une petite maison avec sa nouvelle compagne qu'il a rencontrée en Grèce, du coup, Marie-Andrée Leclerc. Il a aussi, du coup, son fidèle homme de main rencontré en Inde plus de des années plus tôt, Edgé Chaudhuri. Voilà, c'est ça. À partir de ce moment-là, le couple va commencer à traquer les étrangers pour les dépouiller de leur argent et de leur passeport, en les droguant et en les maintenant parfois plusieurs jours en vie dans un semi-coma, puis les tuer. Charles Sobhraj va très vite hériter de son vrai surnom qui est The Bikini Killer, parce qu'on retrouve sur la plage des filles mortes en bikini, noyées souvent. À partir de là, la liste va être longue des tués, il y a des gens tués, étranglés, des noyés, des brûlés. On retrouve des traces de Sobhraj à Bangkok, à Goa, à Hong Kong, dans des brutales péripéties qui alternent des assassinats, des cavales, plein de nouveaux acolytes, des vols de touristes drogués. Bon, j'en passe, hein, je passe cette période, mais c'est rempli de trucs un peu sombres. Il va craquer en 76, quand une vingtaine de touristes français sont prises d'une belle diarrhée dans le hall de l'hôtel, comme on voit dans la série, du coup, à Delhi. En fait, il a craqué. Le produit n'était pas censé agir aussi vite. Il s'est trompé dans le dosage. Et là où les Français auraient dû en moitié mourir dans leur chambre, en fait, ils sont tous morts dans le... Enfin, ils sont tous en train de mourir dans le hall. Donc forcément, c'est un peu suspect. À partir de là, la police l'arrête. Et c'est parti. Entre-temps, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt à Interpol Thaïlande. Donc, pour resituer, du coup... Donc du coup, il part en prison en Inde. Les Indiens ne jugeront pas Sobhraj coupable de meurtre. Donc du coup, il ne va prendre que 20 ans dans la prison de Tayar à New Delhi. Le mec est tellement charismatique et tellement malin que même en prison, les gardiens l'appellent Monsieur Charles, en fait. C'est, en gros, il va dire plus tard que tant que je peux parler aux gens, je peux les manipuler. C'est vraiment son credo. C'est que tant qu'il peut discuter, il peut manipuler tout le monde. Donc le temps passe, en prison, il y reste cette fois, il n'arrive pas à droguer tout le monde. Mais en 86, il sait qu'il est sur le point d'être libéré en Inde, et il sait que s'il est libéré, il sera extradé en Thaïlande, où là-bas, il encourt la peine de mort, ce qui est beaucoup moins sympa. Donc, il se dit, c'est le jour de mon anniversaire, il faut que je sorte, il faut que je fasse un délire pour revenir, en fait. Donc il va offrir des petits bonbons et des raisins empoisonnés à toute son unité carcérale, les 6 gardiens vont dormir, du coup, il s'évade par la grande porte, tranquillou, et il va même prendre des photos des gens en train de dormir, des gardes, du coup, pour que la procédure s'éternise. Le mec était fou. Du coup, il est arrêté. Bah, du coup, voilà, ils vont le retrouver. Et il est arrêté 15 jours plus tard. Il prenait l'apéro dans un bar de Goa, tranquille, en attendant de se faire arrêter. Exceptionnel. Du coup, bingo, il va prendre une extension de peine jusqu'en 97, du coup. En 97, il sort. Le mandat d'arrêt aura expiré. Il sort libre. Super. En 97, il décide d'aller en France, où la France va accorder le passeport à Sobhraj. Il va vendre ses interviews à prix d'or, puisque il aime la fame, il aime être famous. On parle que même qu'il discute de script avec Hollywood, etc. La vie rêvée pour lui, nickel. En 2003, donc du coup 97 à 2003, il est en France tranquille, pas de problème. En 2003, il pète les plombs. Il se dit tiens, je vais retourner au Népal. Ça a l'air sympa. Donc il y va en toute légalité, hein, il a tout ce qu'il faut, nickel. Et au Népal, alors c'est pas comme dans la série, c'est juste qu'il est retrouvé au milieu de la rue, au pif, vraiment il se balade, et un journaliste le croise, le journaliste est espanté de le voir ici, et du coup il appelle la police, qui l'arrêtera dans un casino, quelques temps plus tard, où il est toujours, il l'arrêtera, du coup cette fois il va prendre 30 ans de prison je crois, où il est toujours en prison en ce moment même. Il a fait de multiples appels. En fait, plus les temps passent et plus on retrouve des corps. Donc en 2014, il a encore pris 10 ans, je crois. En 2010 aussi. Donc voilà, c'est pour sa vie qui est un peu floue. Parce qu'en final, il n'a jamais avoué avoir tué quelqu'un. On n'a jamais vraiment eu de preuve qu'il ait tué beaucoup de gens. Donc c'est très flou. Donc voilà, pour Sobhraj, si on veut pour edger... Il a disparu comme dans la série. Il a disparu un soir. Il est parti avec Charles et depuis ce temps, il a disparu. Il y a des rumeurs comme qu'on l'aurait vu en 76 en Allemagne à Francfort, mais vraiment, c'est des rumeurs de gars qui l'ont vu dans la rue. Donc Marie-André a dit qu'a priori il serait mort, mais c'est pas trop. Donc il a disparu. Et pour Marie-André, donc du coup, elle fut condamnée à de la prison en Inde avant d'être libérée en 83 pour des raisons de santé. Hein. Elle décéda de son cancer des ovaires en 84. Pareil, c'est un peu là ce qui change de la série pour Marie-André, c'est que il y a beaucoup de soupçons comme quoi elle était pas vraiment au courant de ce qui se passait. C'est vraiment ce qui en sort par rapport à la série, où on la voit vraiment... elle aura longtemps dit qu'elle était pas au courant qu'il tuait des gens. Nadine, dans la vraie vie, aura confirmé ce propos plus ou moins en disant que ça m'étonnerait. Donc voilà l'histoire en très gros, hein, parce que c'est bien plus complexe que ça.
Ok.
Voilà.
C'est assez fou quand même.
Ouais, c'est une histoire de dingue. Et vous aviez regardé les détails sur Wikipédia pendant la série, vous l'avez regardé après? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de détails vu que c'est une histoire vraie.
Après, un peu, moi, ouais. J'aime bien faire ça à la fin des séries, regarder en wiki, quand t'as fini, quoi, histoire d'avoir plus de détails.
Ok. Non, mais très clair. Ben, merci Romain pour ce récap de la vie d'artiste de Charles Sobhraj. Ce bordel, c'est tellement flippant.
Ce qui est triste, au final, c'est que on est en train de faire, ce que je trouve triste, qu'on est en train de faire exactement ce qu'il souhaite. C'est-à-dire
qu'il veut, ouais, clairement. Ouais,
le mec est hyper famous, il est super... Enfin, c'est hyper trending sur Netflix, là. Et il doit jubiler dans sa cellule. Vraiment, il doit kiffer. Et c'est ça qui me dérange toujours avec les trucs de... Tant qu'ils sont pas morts, ça me dérange un peu.
C'est vrai. C'est très juste.
Quand ils sont morts, ils sont morts, mais...
J'allais dire la même chose. Et même là, tu vois, ça fait plusieurs fois. Et je pense que c'est quand même important qu'on le souligne. T'as tout à fait raison, Romain. C'est, il faut qu'on ait une pensée pour les victimes. Parce qu'en fait, on l'a dans la question Blitz, nous on l'a posé sous et on a fait des blagues dessus en vrai sur ça. Mais en fait, voilà, voyager, c'est ce que je disais, c'est accepter d'être un peu vulnérable, c'est s'en remettre à l'autre, à ceux que tu rencontres, etc. Donc en fait, toutes les victimes ici, ça c'est évident que ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. C'est un mec qui a fait des choses a priori horribles. Et donc là, ça fait plusieurs fois qu'on fait des blagues ou qu'on dit que c'est l'ami, ou même là, tu l'as qualifié d'artiste. Ce mec-là, clairement, comme la plupart des serial killers, se nourrit de l'image qu'il renvoie et de sa notoriété. Et, Et donc, en fait, je pense que même dans le podcast, on va parler un peu de deux choses. Il y a ce que tu viens de faire, Romain, c'est-à-dire la réalité dans cette histoire. Donc, et il y a des trucs à dire là-dessus. Et puis, il y a des trucs à dire après sur la fiction, sur la série qui nous a été proposée. Mais bon, bref, tout ça pour dire une pensée pour les victimes, quoi.
Oui, tout clairement. À fait. Tout à fait. Bonne, tu remets bien l'église au centre du village, mon cher Olivier. Pour repartir sur un truc qui après cet hommage sur la cour biaisée internationale. Alors nous avons un nouveau segment nous samedi. Effectivement, c'est du true crime. C'est une série avec un grand méchant, hein, vraiment l'incarnation du mal. Nous sommes dit que potentiellement le jugement devait avoir lieu. Alors effectivement, nous n'avons pas jugé la personne, hein, à part Benjamin, qui a fait du droit, hein, maître Benjamin. Nous ne sommes pas en capacité de juger Charles Sobrage, j'arrive pas à prononcer son nom qui plus est. Par contre, nous pouvons juger les performances de la fiction, enfin les performances de la série. Et pour ce faire, nous avons réuni la Cour biaisée internationale, qui est composée de moi-même en tant que juge, hein, honorable juge Thomas, un avocat de la défense qui a plutôt bien aimé la série, hein, Pierre, un avocat, enfin le procureur, hein, Benjamin, qui sera en charge d'inculper, je vous connaîtrai les chefs d'inculpation juste après cette série. Nous avons deux jurés, Romain et Olivier, qui à la fin du réquisitoire décideront de si la série est bonne ou mauvaise. Enfin, si les chefs d'inculpation contre elle sont retenus ou si elle est libre. Attention, Romain et Olivier, vous avez déjà donné votre avis, donc nous connaissons les notes, etc. Jugez là la performance et les arguments qui sont devant vous. Voilà, je le rappellerai en tant que juge tout à l'heure, mais voilà. Benjamin, à toi.
Dans le monde du multimédia, les films et séries de piètre qualité sont considérés comme particulièrement monstrueuses. Dans Critique biaisée, les experts de la mauvaise foi qui jugent ces crimes sont membres d'un tribunal d'élite appelé la Cour biaisée internationale. Voici leur histoire.
Silence, silence. Le juge Thomas, l'honorable, préside cette cour biaisée internationale. Aujourd'hui, sur les bancs de l'accusé, la série Netflix Le Serpent, qui dépeint des horreurs indicibles d'un maître de la manipulation et surtout, peut-être une série ou en tout cas une représentation de piètre qualité, c'est ce que nous allons essayer de déterminer. Les chefs d'inculpation concernant cet élément graphique sont petit 1, une tentative d'homicide par l'ennui. Petit 2, une atteinte à la langue française par la dénommée Monique. Petit 3, une non-assistance à série en danger par le reste du casting, de la direction et de la photographie. Mesdames et messieurs, les juges, les jurés, les auditeurs, nous avons deux jurés au sein de cette audience. Messieurs les jurés, Romain et Olivier, ne prenez en compte que les arguments qui sont donnés devant vous. Nous vous demandons d'être impartial et à la fin de rendre votre jugement. Si le procureur Maître Benjamin qui va attaquer cette série pour les chefs d'inculpation susnommés ou l'honorable maître Pierre qui va défendre tant bien que mal cet élément merveilleux de Netflix, vous jugerez qui a gagné, enfin qui vous croyez le plus en gros dans ces deux loufoques, et à la fin vous rendrez votre jugement, je départagerai si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que c'est bien compris? Vous pouvez faire un yay ou un nay. Yay. Le public est en délire. Et nous commençons avec la parole à l'accusation. Maître Tancet.
Merci, monsieur le juge. Merci beaucoup. Cher juré, 8 heures. Pendant 8 longues heures, la série a torturé avec une barbarie rare le cerveau et les oreilles des victimes, ne faisant preuve d'aucune compassion. Le serpent, vous propose un documentaire de 8 heures, façon vaudeville. Quel genre de monstre peut faire une chose pareille, mesdames et messieurs ?
Certes, nous avons devant nous, mesdames et messieurs les jurés, une série qui prend son temps. Mais en quoi est-ce donc une mauvaise chose ? N'est-il pas naturel, pour réaliser un chef-d'œuvre pareil, de prendre son temps ? A-t-on reproché, et je vous le demande, à Michel-Ange de prendre trop de temps pour peindre la chapelle Sixtine ?
Très bons arguments concernant l'homicide à l'ennui. Le juge ne saurait se prononcer. Passons maintenant à l'atteinte à la langue française qui fait souffrir bon nombre de nos compatriotes. L'accusation.
Excusez-moi, monsieur le juge, le dossier est un peu lourd. Alors, donc, l'État accuse Monique,
d'avoir interprété son rôle sous l'emprise de stupéfiants et de tentatives de meurtre de l'accent québécois. J'en veux pour preuve l'infâme bouillie verbale qui s'écoule de sa bouche à chaque réplique et à l'absence totale de construction de son personnage. L'État tient à souligner qu'un Doberman ayant pris 5 cachets de Xanax délivrerait une prestation plus regardable et compréhensible que l'enfer que le prévenu nous a proposé. Et d'ailleurs, en voici un bref extrait audio. Huissier ?
Alors, il y a des dernier quand il y a des paris, alors.
Merci.
Nous avons donc, merci pour Monique Murloc, hein, pour les habitués. Nous avons un Murloc pour l'accusation. La défense.
Oui, alors, pardon. Alors, vous le savez, le Canada, c'est grand. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir une Canadienne avec un accent russo-slovaque, ça me paraît tout à fait crédible. Quant à l'abus supposé de stupéfiants, eh bien, premièrement, cela reste à prouver. Et quand même ce serait le cas, il est de notoriété publique que beaucoup des plus grands artistes de notre monde ont fait l'usage de telles substances en guise de muse. Qui sommes-nous donc pour nous immiscer dans le processus créatif? J'ai moi-même pris un bon rail de coke avant mon plaidoyer.
Nous reviendrons du coup sur une accusation pour Maître Pierre, un huissier noté. Nous risquons de faire une V2 de ce tribunal. Passons à la non-assistance à sérieux en danger, je vous prie, Maître Benjamin.
Merci. L'État accuse également l'ensemble du cast, du metteur en scène jusqu'au préposé au sandwich, de s'être rendu coupable de non-assistance à sérieux en danger en ne prévenant pas les secours devant le massacre audiovisuel qui se tenait devant eux. Seule la responsabilité de l'homme courageux qui a sous-titré Monique dans le dernier épisode sera écartée. Précisons que l'enquête pour retrouver les 15 personnes qui ont observé Nadine se faire savater en plein jour sans bouger un cil est toujours en cours.
La défense rejette cette hypothèse abjecte, preuve étant du succès de la série qui a généré beaucoup d'argent, messieurs les jurés. Beaucoup d'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Il est d'autant plus honteux de mettre en accusation certains des membres de l'équipe du tournage qui ont réalisé un travail admirable. Je parle bien évidemment du préposé au sandwich Jonathan, dont les jambons beurre étaient tout simplement divins.
Ah, l'honorable juge Thomas aimerait goûter le sandwich à l'occasion. Messieurs, merci pour ces arguments. Passons à votre réquisitoire final. La défense commencera pour ce réquisitoire et les jurés pourront voter juste après.
Très bien, je vous remercie, monsieur le juge. Alors, mesdames et messieurs les jurés, je pourrais vous parler des innombrables raisons pour lesquelles vous devriez acquitter le serpent. Ou questionner l'intégrité du bureau du procureur qui serait sûrement moins enclin à la critique si nous parlions aujourd'hui de Fate Wing Saga. Mais je n'irai pas aussi loin. Car lors de ce procès, vous avez beaucoup entendu parler des problèmes de cette série, du casting, de sa longueur. Mais le serpent, avec tous ses défauts, mérite-t-il vraiment une telle crucifixion ? Ou n'est-ce pas au final, en acceptant ceci, que l'on peut réellement en apprécier les qualités ? Si, malgré son départ longué et ses timelines étranges, vous avez été pris par son histoire, si malgré la performance de Vladimir Monique et de la quasi-totalité du cast qui tente d'imiter un accent français, vous avez apprécié celle de Herman et Charles, et si vous ne refusez pas l'idée de recevoir des pots de vin ? Alors, mesdames et messieurs, j'en appelle à votre bonne foi et je vous demande de ne pas condamner mon client. Ce sera tout votre honneur.
Merci, nous noterons huissier pour la V2 de ce tribunal, aussi une tentative de soudoiement. Bon, voilà. Maître procureur Benjamin, à vous.
Écoutez, monsieur le juge, au-delà des charges qui sont elles seules passibles d'écartèlement, selon l'article 1124 du Code biaisé, ce triste spectacle porte également atteinte à notre intégrité morale et physique. Comment ne pas saigner par chaque pore de notre peau lorsque se déroule devant nous la chasse à l'homme la plus molle de l'histoire ? Comment supporter de ne voir que 6 décors en 8 heures de calvaire, alors que le principal suspect de cette mascarade est censé avoir fait 3 fois le tour du monde, de Bangkok à Paris, en passant par mes chiottes? Ce sont également les relations diplomatiques avec nos cousins canadiens qui sont foulés du pied. Le personnage de Monique devant être le doux mélange de notre langue et de ce si bel accent que nous aimons. Si nous ne condamnons pas fermement ces actes, il ne faudra pas venir pleurer quand la police montée canadienne viendra pas raser Paris dans un torrent de sang, de flammes et de poutine. Vous l'aurez compris, cher juré, il est impératif que nous coupions la tête du serpent afin qu'un tel drame n'ait plus jamais lieu. C'est pourquoi l'accusation requiert 5 ans de mise à l'épreuve, avec interdiction de s'approcher d'un plateau de tournage pour l'ensemble des acteurs, ainsi que l'obligation pour l'accusé Monique d'effectuer 10 semaines de cours de français niveau CE1. Ce sera tout.
Très bien entendu, le procureur est quelque peu... Bon, nous appellerons Justin Trudeau pour valider la véracité de l'invasion canadienne. Attention, dans les Tuileries. Messieurs les jurés, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner votre verdict, cher Romain, pour commencer. Qu'en avez-vous pensé ?
J'ai beaucoup apprécié la prestation de Maître Benjamin. Elle me touche au fond de moi-même. je suis conquis.
Très bien. Nous aurons donc une voix pour l'accusation. Cher Olivier, qu'en avez-vous pensé ?
C'est une bonne question. Je vais voter aussi pour Benjamin, mais c'est plus parce que on a la chance de l'entendre fumer à chacune de ses à chaque fois qu'il a arrêté de parler, vu qu'il se mute pas, et je trouve que ça ajoute un petit charme à sa
mais
prestation.
c'est tout dans le roleplay, hein.
Non, mais parce que moi, je fermais les yeux et je me disais, on est vraiment probablement dans un tribunal des années 70. Il a poussé vraiment, on sent que il a travaillé son rôle, il a poussé vraiment le désir du détail, etc. Parfait. Donc, bravo pour ça.
Très bien. Plaisir.
Là, nous pouvons conclure donc à un verdict que le serpent est inculqué de tous ses chefs d'inculpation, hein, n'est-ce pas ? Et le serpent tombera donc aux oubliettes de l'ennui, de la tristesse et de l'écorchage de la langue française. Malheureusement, ce qui est bien corrélé à la note de 4,9 sur 10 pour l'équipe de Critique Biaisée. Merci beaucoup au tribunal international, à la grande cour, à la magistrale performance de l'accusation et de la défense. Merci Pierre Benjamin. La séance est levée. Petit bruit de bruitage que nous n'avons pas. Tac, tac, tac. Je sais
tac,
pas.
Tac, 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 tac. Tac, tac. Bruit de tribunal, bruit de tribunal.
Eh, on n'a pas de thunes, c'est comme ça. Hein.
On fait ce qu'on a.
Merci beaucoup pour ce petit segment intéressant. Rentrons maintenant dans les arguments un peu plus en détail. Hein. Là, c'était une performance, comme à chaque fois dans Critique Biaisée, nous l'avons aussi au fond.
Quelle performance ?
N'est-ce pas avec la cigarette. Nous allons au fond du sujet. Et avant de rentrer dans le débat, peut-être un petit rappel de l'ambiance, cher DJ.
Il s'aime et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
A priori, un peu plus loin, parce que le maléfice a continué malheureusement. Alors, Gainsbourg qui illustre assez parfaitement, je pense, l'ambiance un petit peu... Allez, on voit de la fumée de cigarette, on voit ces années un petit peu très permissives. D'ailleurs, j'imagine
très hippie,
c'est...
Hein. C'est clairement très hippie.
Ouais, clairement.
Ces méfaits n'auraient pu arriver maintenant, parce que maintenant, tu changes une photo dans un passeport, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, l'ambiance de cette série... On l'a noté, elle a pris un tir à la 4,9, mais l'ambiance est quand même très travaillée, assez folle. Les années 80 sont très présents. Ça vous a touché, ça? Ça vous a plu, ce côté un petit peu flashback? Enfin, flashback et flashback, ça vous touche, hein?
Moi, j'ai bien aimé, mais le problème, c'est que je trouve qu'on n'en voit pas assez, en fait. En fait, on voit des hippies, on voit des vêtements, on voit, tu sais, il y a une esthétique qui est travaillée. Mais en fait, je pense que ce qui m'a manqué, c'est le manque, en fait, de décor. Je trouve qu'on n'est pas dans, il y a pas assez de scènes et du coup j'arrive pas à avoir une vision globale en fait de l'univers des années 80-70 et ça m'a un peu manqué, tu vois. J'avais l'impression de, du coup, voir des gens en costume dans quelques scènes plutôt qu'un vrai monde en fait dans cette époque.
Bah, c'est marrant, j'ai pas eu du tout le même ressenti parce qu'il y a plein de on passe à Delhi.
On y va pas.
Si, à Delhi on y est, plusieurs
fois. Non, non. C'est ça le problème, en fait, c'est que le film a été tourné à 50-50, donc 50% Bangkok et ses alentours, et le reste en Angleterre. Crois que tu parlais dans la vraie vie. Oui, on y va,
La fiction. Dans la fiction, ils nous montrent Delhi, on voit des images d'époque, on les voit se balader. Alors, c'est peut-être reconstitué, mais tu vois les rickshaws, tu vois des saris, tu vois... En fait, tu vois la moiteur sur les corps avec la chaleur intense, tu vois le Népal, tu vois, etc. Qu'il l'ait reconstitué, qu'il n'ait pas fait les voyages, ça, j'ai pas été checké. Pour le coup, il me semble qu'on te montre plusieurs scènes. Et moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai trouvé justement ça beaucoup trop contrôlé, aseptisé. Ce que je disais dans mon avis dans le premier épisode du lundi, c'est que pour moi, la photographie, j'ai ressenti un peu ce que je ressens avec Snyder et qui, moi, me sort du truc, qui est la caméra est beaucoup trop visible. Mais c'est hyper inégal. Là où Snyder, c'est tout le film ultra maîtrisé, là, il y a des moments où c'est... la mise en scène et la qualité graphique est pourrie, et des moments où c'est beaucoup trop visible, et c'est notamment très visible, je trouve, dans les premiers épisodes où tu vois que ça, justement. Chaque fois que Jenna Coleman, elle apparaît à l'écran, elle a toujours un nouveau style avec, bref, c'est vraiment très présent pour moi, et beaucoup trop, je pense.
Ça a été très repris, d'ailleurs, son style sur les réseaux sociaux.
Je suis d'accord avec Olivier sur... tout le monde. Je suis d'accord avec Olivier sur des plans qui sont inégaux. C'est des moments, on a des plans serrés. J'ai l'impression qu'on est sur une telenovela. Vraiment, il y a des plans serrés dégueulasses. C'est honteux, je trouve. Enfin, c'est complètement inégal. Après, moi, niveau de décor, j'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond et ça se voit qu'on voyage pas. Et c'est tout ça que je trouve dommage, en fait. J'aurais bien aimé vraiment partir à Delhi ou à Goa ou à Hong Kong. On voit que c'est pas Hong Kong. On voit que c'est le quartier, c'est Chinatown de Bangkok. Pour y être allé, je sais. Donc, ça se voit qu'on n'est pas du tout à Hong Kong, quoi. Et je trouve ça dommage. Et Paris, c'est une honte. Hein. Alors, à Paris, ça ressemble pas du tout à Paris. Enfin, y a rien qui va dans Paris à la fin. Donc, je trouve ça dommage. Ça fait, ouais, il roule à gauche. Hein. Non, mais c'est totalement fake, en fait. Et ça se sent, je trouve. À part Bangkok, du coup, parce qu'ils sont allés qu'à Bangkok, ça se voit. Mais du coup, ça m'a sorti, en fait. Pour le coup, j'ai trouvé ça dommage, quoi.
Ouais, moi, j'ai pas du tout le même feeling. Déjà, j'ai pas remarqué tous les problèmes à Paris avant que tu me les dises. C'est à quel point j'étais inattentif à ça. Et pour le coup, le fait que ça bouge pas beaucoup, comme disait Olivier, je trouve que quand même, tu t'es senti un peu voyager quand t'as des petits segments. Alors, a priori, c'était pas le Népal, mais moi, je me suis même pas posé la question parce que ça me semblait crédible. Et je pense que c'est pas spécialement important pour une série de vraiment tourner là où tu dis que tu vas, parce que si t'y crois, ça suffit, quoi, en fait. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Bon, effectivement, pour Paris, c'est plus problématique s'ils te font pas rouler dans le bon sens. Effectivement. Après, pour le reste, je sais pas, la diversité des plans, des scènes, c'est pas toujours, et des décors, c'est pas toujours essentiel. T'as des huis clos qui sont très bien, où t'as littéralement un seul décor. Alors, moi, c'est pas vraiment un prérequis pour apprécier la série.
Je l'ai pas trop vu, moi, le problème à Paris. Bon, c'était dans les... Ouais, après, j'ai pas vu qu'il roulait à gauche. C'est vrai que je l'ai appris par...
Si, celui-là, il est quand même assez...
Il est énorme, celui-là. Génial. Moi aussi, je l'ai vu. Ouais, j'étais là, non.
Mais pourquoi il est pas du bon côté du...
Mais je me suis demandé s'ils
avaient inversé l'image en me disant... peut-être ils ont fait un miroir, tu vois.
Bah non, vu qu'ils roulent en Angleterre, ils ont pas grillé, je pense.
Non, mais du coup, j'avais pas regardé où est-ce qu'ils ont tourné, tu vois. Donc je me suis juste dit, c'est hyper bizarre parce que je m'attendais pas à ce qu'ils reproduisent Paris. Alors, en fait, les problèmes de Paris, bon, il y a le truc qui roule à gauche et puis il y a le truc évident de la Tour Eiffel, elle est toujours
Tour Eiffel,
sur tous les plans.
Oui, toujours. Mais c'est bien connu.
Toutes les fenêtres, il y a une Tour Eiffel.
Moi, je regarde la Tour Eiffel. Je regarde par la fenêtre.
C'est le truc classique des TV shows qui sont à Paris, c'est que tu vois la Tour Eiffel dans tous les plans.
Mais Paris, il y a pas de problème. Outre la voiture à gauche, mais même outre les décors, enfin, il y a les flics qui viennent chez la merde, ils parlent en anglais. La police vient chez toi et te commence une discussion en anglais. Ça n'arrive pas.
Non, ouais, mais ça n'arrive pas.
Et à table, ils sont censés tous être français normalement. Et en fait, c'est blindé d'incohérence parce qu'ils sont tous français quand ils se retrouvent à table. La mère, le fils. Et ils parlent tous anglais. Ça a pas de sens du coup. En vrai, ils sont tous français de base normalement. Ou québécois.
Et pas d'accordéon. Pas d'accordéon non plus, ça c'est un arbre.
Ça se voit que c'est fake du coup.
Faut le dire.
Si on parle un peu des incohérences culturelles et de la langue, alors vous en avez parlé un peu dans le tribunal, donc il y a le français ou pas, et il y a pas mal d'acteurs. On sent l'influence de la BBC qui fait qu'on se retrouve avec plein de comédiens qui... en fait, pour moi, ce qui m'a le plus choqué, outre l'accent de Jenna Coleman qui est assez difficile, c'est d'ailleurs assez rigolo parce que je trouve qu'elle fait un bon accent français quand elle parle anglais. Or, les Québécois, ils ont un accent vraiment à l'américaine, donc quand ils parlent anglais, ils parlent un anglais parfait.
Ça dépend.
Et effectivement, elle fait un très mauvais accent québécois quand elle parle français. Enfin, elle le fait pas, en fait. Donc, en fait, j'ai même pas compris ce qu'ils ont voulu faire, pour être honnête, parce que... Pourquoi parce qu'elle est british, cette actrice, pourquoi elle parle l'anglais avec un accent de français qui vient de métropole, quoi? J'ai pas
compris. Oui. Et d'ailleurs, moi je comprends même pas pourquoi dans la série ils ont pas modifié ça, en fait. C'est juste en disant québécois français et de dire genre québécois, enfin canadienne, ouest, tu vois. Dans une région, ils parlent pas français. Et hop, elle parle anglais et c'était réglé, tu vois.
Parce qu'effectivement, ils n'avaient pas besoin de respecter tous les détails. Mais alors, pour être honnête, ce qui m'a un peu gêné d'ailleurs dans le tribunal et ici, c'est que En fait, je trouve que ça pose une question intéressante sur ce qu'on a, ce que tu ressens toi en tant que spectateur d'une certaine ethnie quand tu vois ton ethnie se faire un peu massacrer par une mauvaise représentation, tu vois. Et en fait, moi, ça m'a posé la question de l'invisibilisation que tu as des minorités de manière générale. Et là, on la reproduit d'ailleurs parce que personne ne dit tiens, c'est marrant, le mec, il est censé être à moitié indien et vietnamien et ils ont pris Taha Rahim qui n'a rien à voir. Et pourtant, c'est beaucoup plus choquant parce que ça participe d'un processus qui est très présent dans notre société d'invisibilisation des minorités. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plus choqué que le fait de dire « Ah, c'est marrant, les gens qui sont censés être français, c'est pas des français, leur accent, il est pété, mais en vrai, à part les français, qui sait que ça gêne, tu vois ?»
Et le truc, c'est que
c'est pas trop les français. C'est pas trop qu'ils soient français. Non, mais c'est parce pas que tu sois français, le problème, on s'en fout.
Enfin, c'est moi, que ça te sort de la performance.
Que le mec soit australien et qu'il parle totalement français, ça me va totalement. En fait, c'est juste je m'en fiche du pays, personnellement. Ça me
dérange.
C'est juste l'accent qui enfin, c'est juste que c'était naze, quoi. On se fout.
Et puis, il y a des contre-exemples, en plus. Il y a des contre-exemples. Vous avez Dominique, qui est anglais, et qui fait un accent français parfait. Enfin, moi, Romain m'a appris après qu'il n'était pas français non plus, qu'il était anglophone, mais pour moi, il était français. Ses parents aussi. J'étais convaincu qu'il était français. Et pourtant, non. C'est bien la preuve
moi,
que c'est possible de faire ça
français,
et de le faire.
Ouais, ça sent. Mais il était propre. Il était propre.
Malgré ça, tu peux avoir des bonnes performances.
Ouais, on ne parle pas du même point.
Ouais, le point d'Olivier là, est illustré par ça. En fait, on a le point. Enfin, Olivier, tu compléteras, mais pour moi, c'est un tropisme français que de passer un quart d'heure et d'avoir beaucoup d'arguments relatifs à ça. Parce qu'on l'a remarqué, justement, parce que pour une fois, entre guillemets, ça nous touche. Et ça illustre bien à quel point, finalement, bah nous, on se sent un peu gênés. Et j'imagine bien, du coup, les représentations d'autres nationalités qui, dans certains films américains, doivent dire « Mais what the fuck ? Pourquoi ?» Ça, c'est pas nous, ça, du coup, qui te sortent immédiatement du truc. Et là, pour une fois, c'est le français qui est massacré. Et du coup, ça nous attise, tu vois. Enfin, c'est intéressant.
Et j'en parle parce que c'est quelque chose qui est important, qui est souvent mal compris. Et nous, il faut le dire, on est quand même un groupe de 5 mecs entre 25 et 35 blancs et français. Du coup, il y a peut-être des trucs qui ne nous parlent pas. Mais par exemple, il y avait eu des gros débats sur le fait que Apu dans Les Simpsons, il n'est pas du tout doublé par quelqu'un d'indien. Et que ça joue énormément des préjugés, etc. Ce qui est encore une autre truc, mais le fait que ce soit pas le cas. Il y avait eu débat sur plein de films d'animation, je crois que c'était autour de Soul, où une partie des gens n'étaient pas noirs dans le cast des voix. Et là, on parle même de films d'animation, etc., etc. Et donc là, nous, ce qu'on a ressenti qui est gênant, et j'ai bien compris ton contre-argument, Romain, de dire « je m'en fous qu'il soit français, je veux juste qu'il ait un bon français, un bon accent français crédible ». Mais justement, le truc, c'est que c'est pas important pour la fiction. Ce qui est important pour la fiction, c'est plus un problème de représentativité de ce que ça crée comme gêne. Et donc, moi, j'ai été beaucoup plus choqué par le choix de Taha Rahim, alors qu'il y a plein de comédiens qui auraient pu faire le taf et on aurait pu donner des chances à d'autres types de comédiens. Donc, de la même manière que c'est un peu choquant de se retrouver avec une coproduction BBC qui nous met plein d'acteurs britanniques à qui on demande de faire des Français et qui, du coup, le font comme ils peuvent, je trouve ça encore plus grave quand ça vient masquer des minorités et perpétuer un phénomène d'invisibilisation qui est assez commun dans cette industrie, quoi.
Non, fair enough.
Intéressant parce que pour le coup, Taha Rahim est aussi icône dans la série. En fait, sans Taha Rahim, tu dis, il y a d'autres acteurs qui auraient pu faire l'affaire, sans doute, hein, très certainement. Mais c'est vrai que sa performance est quand même à souligner parce qu'elle est assez extraordinaire. Quoi. Moi, je lui mets un 6 parce que l'acteur est excellent, en l'occurrence, rattrape un peu le coup. Quoi. Alors, effectivement,
Je suis d'accord. Je ne parle pas de la prestation de Taha Rahim, que je trouve d'ailleurs que c'est un peu gênant aussi si on parle un peu de la mise en scène. Je trouve que ça repose un peu trop sur lui, justement. Il tient à bout sur ses épaules et il fait une prestation que je trouve très bonne. Donc, c'est pas du tout pour enlever ça. Au contraire, j'ai adoré sa prestation. Mais je dis attention, tu vois, nous, parce que je voyais qu'on allait parler pendant 20 minutes de l'accent français, mais en fait, je trouve qu'il y a des trucs plus graves qui se jouent malheureusement.
Du côté immersion, c'est pour ça. C'est un truc qui te choque. Enfin, plus nous,
autant pas le faire, je trouve.
Pour
autant pas le faire, en fait. Ils n'ont qu'à tous parler anglais, moi ça m'aurait pas dérangé.
Non mais c'est pour des, c'est pour des francophones et c'est pas très grave. Je veux dire, il y a plein de shows. Moi je les entends pas, je suis pas assez fort en anglais pour ça, mais il y a plein de shows où moi quand je regarde avec ma femme qui est bien meilleure en anglais, elle me dit ah ben là c'est censé être un Australien, il parle pas du tout avec l'accent australien, ou là il est censé être du sud de l'Amérique et il parle pas du tout avec le bon accent. Et en fait, il y a plein de locuteurs dans plein de d'autres langues qui ont le même problème de manière très régulière. C'est tout juste que nous on y est moins sensible, et là on y est sensible parce que c'est les accents qu'on connaît forcément puisqu'on est français, quoi.
Je propose c'est régulier dans le cinéma et les Américains le font vachement plus d'ailleurs.
On est sur un tropisme, donc on l'a bien développé. Et par contre, moi ce que j'aimerais savoir, c'est ce côté malaisant. Alors Olivier l'a rappelé tout à l'heure, c'est une histoire vraie, il y a des victimes, c'est très dur d'ailleurs, avec un tueur en série toujours en vie et du coup des familles de victimes qui se revoient replongées dans cet univers, ça doit être ultra dur. Est-ce que vous êtes senti malaisé par cette histoire qui, ou à l'inverse, ça loupe le coche? Moi, c'est pourquoi, en fait, j'arrive à être complètement détaché et à en parler d'une manière complètement rigolote, finalement, presque. C'est parce qu'en fait, j'ai pas du tout été touché par la description. Quand t'écoutes l'histoire vraie de Romain et quand tu lis, etc., c'est l'infâme. T'as envie de pleurer, t'as envie de te mettre en PLS et de plus jamais quitter ta chambre. Mais en réalité, dans la série, j'ai ressenti aucun malaise. Alors, suis-je un sociopathe, un psychopathe, ou vous aussi, ça a loupé le coche de ce côté-là, et en fait, c'est juste another story qui aurait pu être fake, et puis voilà.
Non, ça loupe le coche. Pour moi, ça loupe le coche, parce que y a aucun moment où je ressens une pression, ou en fait, dans cette série, j'ai pas peur pour les victimes. C'est très bizarre, en fait. Il manque quelque chose, il manque un... Et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai vu un documentaire il y a quelques années, je sais même plus, où là par contre ça m'avait fait flipper parce que c'était vraiment prenant. On voyait que le mec est complètement targe, quoi. Enfin, c'est vraiment un malade, quoi. Mais et là, je trouve qu'on le voit pas trop dans la série. Finalement, on met du temps avant de comprendre ce qu'il fait. Bon, il va tuer des gens, mais on sait même pas trop pourquoi. Je trouve qu'on n'a pas la représentation de ce qu'il veut faire et voilà, on n'a pas la backstory, et du coup je trouve qu'on a du mal à rentrer dedans. Finalement, on voit des gens qui sont tués, mais je trouve que ça s'enchaîne, et puis voilà, quoi. C'est un peu un slasher, on tue des gens et puis basta, quoi.
Ouais, exactement. C'est exactement ça. Puis en plus, moi je trouve ce qui manque énormément, c'est le côté danger, en fait, pour les victimes, parce que je trouve qu'elles se laissent un peu avoir facilement, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un des couples qui va se faire... on va leur proposer de venir voir Alain, du coup, dans sa résidence, enfin dans l'hôtel. Et la femme dit « Non, non, je suis pas chaude, on va aller ailleurs. » Ils arrivent à l'aéroport, t'as AJ qui est là en train de les attendre, avec son grand sourire hyper malaisant, et qui fait « Non, mais vous allez venir avec nous, vous inquiétez pas. »
Je suis désolé, je suis obligé de couper. Tu peux pas victime blamer, c'est pas possible.
Mais non, c'est pas ça, c'est plus, que dans la représentation qui est faite...
Non, mais même ce qu'on disait tout à l'heure. C'est parce que tu mais sais oui. des choses qu'ils ne savent pas. En vrai,
mais même moi, en titre personnel, si tu veux, je me pointe comme ça, mais tu non. vois, et je me mets à leur place et je me dis, c'est l'attitude qu'il a dans la série, hein, j'entends, tu vois, dans la série, si mais c'était fait comme ça, l'attitude qu'il
d'accord.
aurait et tout.
Ouais, non, mais c'est le bro par excellence, le mec. C'est le bro par excellence qui aime faire la fête et qui t'accueille. En vrai, nous, on le trouve creepy parce qu'on sait ce qu'il est, tu vois. Mais dans la vraie vie, des gens comme ça, t'en vois plein. Et quand tu voyages, et en plus, dans les années 70-80, je pense que t'en avais plein. Au contraire, je pense pas que tu réagirais comme ça. Je pense pas qu'ils se fassent avoir particulièrement facilement. Ils se sont rencontrés, ils ont bien sympathisé. Le mec leur a dit, je vous invite, venez voir la Thaïlande quand vous passez. Le gars, il vient les accueillir, tu dis putain, ils sont trop cool, c'est
oui,
trop
mais
bien.
Ça. Oui, mais ils avaient pas. Et le mec, il arrive à l'heure, il savait quand ils arrivaient et tout, ça fait un peu trop genre, on vous attendait vraiment, faut absolument que vous veniez chez nous, tu vois. Dans la série, comme c'est présenté comme ça.
Ouais,
ça
mais là, il est en mode sauveur. Il est en mode sauveur, eux, ils étaient dans la merde, etc. Ils ont cette espèce de sauveur.
Bon, ils allaient à l'hôtel, hein.
Oui, mais tu vois la situation dans laquelle ils étaient avant, où ils parlaient, qu'ils se demandaient comment ils allaient faire pour rester plus longtemps, etc. Enfin, là, ils sont dans une situation où ils sont facilement influençables. Et c'est sur ça que je pense que, historiquement, Charles jouait de toute manière. Et je suis complètement d'accord avec Olivier, on en parlait. Je pense que tu te mets trop facilement en mode, toi, tu sais ce qui se passe. Forcément, ça influence ton jugement. Forcément, ça influence en mode, évidemment, il est creepy, parce que moi, je sais. Mais c'est pas...
Non.
C'est un peu facile de dire
en vrai,
ça.
Non, non, je vous jure que moi, j'ai essayé de me foutre à leur place dans cette situation-là, avec les connaissances qu'ils ont, j'ai essayé de me foutre à leur place et de me dire, est-ce que ça m'aurait gêné? Et vraiment, il y a des moments où je me suis dit, je me serais quand même un peu méfié, tu vois. Là où eux, je trouve qu'ils ont un peu trop à de bon cœur.
En fait, il y a un effet, je vais illustrer ça. C'est quoi le pays le plus éloigné, le plus différent dans lequel t'as été?
L'Andorre.
T'as dit quoi? Le Japon. Le Japon, et imagine que tu sois immergé dans le Japon pendant des semaines, et tu croises dans le métro ou je sais pas où, dans un resto, des Français. Tu réagis comment?
Bah, s'ils viennent me parler, on peut parler et tout, c'est cool, tu vois. Mais par contre, si jamais ils viennent me dire « Ouais, écoute, viens chez nous,
je termine mon développement. » Le truc que j'essaie d'illustrer, c'est que quand t'as un peu voyagé, il y a un truc qui est étonnant, c'est que bon, quand t'es en France, il y a des Français, et puis si le mec il te parle, tu vas plutôt voir toutes les différences que tu peux avoir avec la personne, et pas nécessairement tous les points communs. Quand t'es immergé dans une culture à l'extérieur, etc., ce qui peut arriver, c'est que quand tu croises des Français à un moment où tu t'y attends pas, tu te dis ah putain t'es Français, mais moi aussi trop bien, ça fait combien de temps que t'es là, etc. Et
j'en
ça
crée
spontanément.
Des Français au Japon.
Des discussions, ça crée spontanément des discussions et des liens que tu n'aurais jamais eu et tu ne serais, t'aurais jamais connecté de la même manière. C'est exactement ce qui leur arrive. C'est-à-dire que quand ils tombent sur Alain, là, il s'est montré, bah, c'est un Français, ils sont, tu vois, en fait, ça crée des liens. Et ça, je pense que ça pose des questions. C'est assez intéressant, je trouve, d'ailleurs, sur son modus operandi, en fait, il est vachement axé là-dessus, sur le fait que il est certes charmant, il est certes manipulateur, il est certainement un peu de la même trempe que ses gourous, mais en fait, ce qui joue aussi beaucoup pour lui, c'est qu'il est à la fois asiatique, donc en fait, tous les gens doivent se dire « Ah, ben il sait de quoi il parle quand il me donne des conseils », donc ça crédibilise son conseil. Et de l'autre côté, il est aussi européen, donc en fait, il est français, il a cet accent français sur lequel il joue, et ben en fait, tu te dis « Ah, ben on est pareil », et tu vois les trucs qui nous rapprochent. Et du coup, je pense qu'il arrive, pourquoi il s'attaque essentiellement à des touristes, etc. Est-ce que c'est une idéologie? Je suis pas sûr. C'est aussi par praticité, en mode, en réalité, c'est tellement facile de te mettre dans la poche des gens quand tu dis « Putain, ça fait des semaines que j'ai pas croisé un Français, je croise un Français, il est plus comme moi », et donc tu vois ça. Et on l'a tous vécu, enfin moi en tout cas je l'ai déjà vécu, tu croises des Français à un moment complètement inattendu et tu te mets à parler, voire à partager un moment, alors qu'évidemment la même personne en France, tu lui aurais même pas prêté attention.
Complètement, voire à les revoir, voire à bouffer avec eux, voire à garder contact,
ouais, exactement.
Ça crée un lien immédiat. C'est vu que t'es complètement perdu, tu retrouves une connexion instantanée avec un truc que tu connais, et du coup c'est ultra, enfin pour moi je trouve ça ultra crédible. Et encore une fois, quand on faisait la question Whispio et quand on parlait de nos expériences, ça aurait pu nous arriver, quoi. Donc en cela, je trouve que c'est plutôt bien. Après, Benjamin, c'est vrai que connaissance qu'on connaît, évidemment, c'est compliqué. Donc peut-être c'est un problème de réal qui t'a pas mis dedans parce qu'ils ont trop donné peut-être sur le personnage et tu t'es dit mais attends, là c'est what the fuck. Peut-être qu'on aurait peut-être pu plus se placer d'un point de vue des victimes et non pas d'un point de vue du meurtrier, parce que finalement, hein, quand on réfléchit, d'ailleurs là, juste petite parenthèse, on a parlé que de Charles Sobhraj, un peu de Monique par le tropisme français, mais du coup c'est à quel point il crève l'écran, il est fascinant, et ne serait-ce pas du coup l'illustration que ça retranscrit bien ce qu'était ce tueur en série, quoi. Il reste, et on nous montre quelqu'un de fascinant.
Si, ouais, Olivier, pour donner sur le côté fascinant, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que c'est un sociopathe un peu atypique, je trouve. Tu sais, à travers tous les podcasts, émissions, séries, enfin toute la vague true crime, on nous montre souvent des personnages. On est assez habitué à des tueurs qui ont aucune empathie, évidemment, qui prennent beaucoup de plaisir dans les meurtres. Ici, je trouve que ce qui est vachement intéressant, il y a le modus operandi et comment il utilise ce modus operandi, le côté redoutable. Mais ce qui le rend encore plus froid, c'est qu'en réalité, t'as même pas l'impression qu'il prenne un plaisir ouf. Il semblerait qu'il le fasse vraiment de manière purement pour se tenir un style de vie et des rêves de grandeur, quoi. Il y a presque un côté, il a une méthode qu'il a industrialisée et c'est presque comme une machine, quoi.
Mécanique.
Et
quoi. Ouais.
Il le montre pas prendre un plaisir comme on peut voir dans certains serial killers. Si on passe à des Hannibal Lecter, si on pense à, tu vois, il y a aucun moment où on nous montre quelqu'un qui kiffe.
Bah. Il y a un truc, tu vois, qui m'a fait douter de ça, c'est quand il parle d'un de ses meurtres, il parle, tu sais, de, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait un peu chelou, tu sais, avec sa femme et sa fille qui sont en France. Je sais pas si tu vois lequel,
le
qui essaie de draguer Monique à un moment donné.
Ouais.
Le Turc, exactement. Et bah lui, quand il décrit la façon dont il l'a tué à sa copine, il lui dit qu'il l'a scalpé ses longs cheveux, tu vois, ça, qu'il lui a fait un scalp, quoi. Tu sais, ça fait, c'est pas pour tuer, ça. Tu sais, c'est vraiment en mode, truc un peu vicieux,
non,
tu vois,
alors,
un peu...
Non, je dis pas qu'il a pas de vice, hein. je dis juste
non, mais
qu'il
ça
le montre
un peu plaisir,
pas,
quoi, tu vois.
Y a pas trop, il y a pas dans la réal, en tout cas, dans ce qu'ils ont choisi de faire dans la fiction, il ne montre pas quelqu'un qui se délecte de ça.
Oui,
il y a effectivement
pour,
du vice,
ouais.
Le même le fait qu'il drogue les gens et qu'il les laisse à moitié comateux pendant des jours et des jours, tu te doutes bien que le gars, il est vicieux et qu'il y a vraiment un truc qui tourne pas rond. parce que tu comprends même pas pourquoi il ferait ça, mais ce que je dis, c'est que je trouvais que dans le personnage, la manière dont ils ont choisi de camper ce personnage-là, il jouait pas tellement la carte du plaisir, il le montre presque comme quelqu'un d'efficace, redoutable, et je trouve que ça le rend encore plus creepy et dérangeant, parce qu'en fait, il y a un côté industriel, quoi.
Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il te laisse vachement poser la question, en fait. C'est-à-dire que dans toutes ces scènes, et moi, c'est l'intérêt que j'ai eu sur le personnage pour répondre un peu aussi à la question un peu plus tôt. C'est, je trouve que justement, il te laisse te poser la question de, certes, il y a un côté utilitaire, c'est-à-dire que clairement, il fait ça pour récupérer des papiers, mais il y a plein de situations où tu te dis qu'il se met volontairement lui-même en danger, c'est-à-dire qu'effectivement, il est obligé, quote unquote, de les tuer parce qu'ils savent où il habite, etc. Mais, au final, je pense qu'il y a une question qui se pose de à quel moment est-ce qu'il a pas commencé à utiliser ça comme des prétextes pour assouvir des envies de meurtre potentielles. Je pense que tu as raison et que c'est un sociopathe, à l'inverse de tous les tueurs en série qui sont, que tu as cités, qui sont souvent plus des psychopathes. Mais je pense qu'il y a vraiment cette question qui se pose. Et quant aux victimes, c'est vrai que c'est très mal retranscrit. Et les seuls moments, je trouve, où tu trouves ce besoin de te dire merde, est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va s'en sortir, c'était pour Nadine. Nadine, je trouve que c'est la première victime potentielle où tu arrives à te poser des questions et où te mettre dans sa peau en mode merde, est-ce qu'elle va y arriver, quoi. Où il y a deux, trois plans en plus qui te laissent suggérer avec le téléphone qui sonne dans le vide, quand elle tombe sur IJ dans l'appartement, etc. Et je trouve que c'est le seul moment où ils arrivent un peu à retranscrire ce sentiment-là. Et ce qui ne passe pas du tout avec les autres couples, etc.
J'aimerais rebondir sur ce psychopathe complètement fou et du coup son arch-ennemi. On en a très peu parlé alors qu'il est très présent dans la série. Hein. C'est lui qu'on suit dans le dénouement et qui va réussir à montrer au monde qu'il y a bien un tueur en série qui sévit en Asie. Knippenberg, tu l'as mieux prononcé que moi, Pierre. Tu t'es entraîné sur l'accent belge. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage et de son évolution? Et d'ailleurs, est-ce que c'est... Hollandais. Je crois que c'est réel, hein, Romain. Hein, c'est... Vrai personne. C'est lui qui a réalisé ça. Donc,
oui.
Ouais. Et du coup, Knippenberg, crédible, pour moi, pas crédible en Arch Enemy.
Pour moi, pour moi, c'est ça le vrai drame de cette série. Alors, pour répondre à la question juste avant, en deux secondes, moi, j'ai quand même ressenti pas mal de malaise à plein de moments et je me suis senti. Je suis complètement d'accord sur le fait que les victimes, ils leur donnent pas de backstory. Donc, en fait, tu cares pas pour elles en particulier, mais par contre, je trouvais ça vraiment dérangeant et la prestation de Tahereh Rahim et la mise en scène fait que je le trouve, comme je disais, redoutable, industriel. Et donc, il y a vraiment un truc, moi, qui a commencé à m'englober où je me sentais un mal-être, malaise, quoi. Par contre, le vrai défaut, c'est ça, c'est le manque de développement des personnages. Et c'est vrai d'ailleurs pour les attaquants, c'est vrai pour, comme tu dis, le diplomate qui a vraiment été à la manœuvre pour faire en sorte qu'il se fasse arrêter. On expliquera peu ou jamais les motivations des uns et des autres, leur psychologie, les effets, les dommages qui doivent être monumentaux sur la psyché de ces gens-là, etc. C'est jamais vraiment développé. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que quitte à faire une fiction et pas un documentaire, ça aurait été cool de s'aventurer dans ces territoires-là parce que c'est pour ça que je parlais dans mon avis du lundi que c'était le zoo et qu'on était vraiment derrière une vitre teintée en train de les regarder sans rien de plus. Et donc là, pour moi, c'est pareil. Et du coup, ce qui m'a un peu déçu dans la retranscription de ce face-à-face, c'est que c'est très manichéen, quoi. L'antagonisme entre les deux... en gros, il y a un gentil. Et du coup,
il est très gentil. Il est très gentil, en plus. Hein. Il est très gentil. Hein. Il refuse de tuer, tout dans les règles.
C'est vrai, ouais.
C'est un gentil et le mal absolu. C'est super
après, c'est le principe de cette histoire. C'est le principe de cette histoire. Ouais, après Jean-Olivier, parce que dans ce genre d'histoire, c'est assez fascinant quand t'as une opposition qui est prête à se salir les mains aussi. Je pense à True Detective, par exemple, avec McCollegy, qui était un peu l'exemple d'un espèce de, comme il disait, je sais plus la situation, mais d'un monstre qui tient les autres monstres à distance. Et c'est vrai que ce genre d'opposition dans des contextes similaires, ça rend très très bien. Après, ça veut pas dire que la façon dont Knippenberg le fait, je pense que ça doit être relativement proche de la situation. Et ça m'étonnerait pas que pendant ces années de trac, il ait eu des propositions comme lui a fait Paul. En mode, non mais écoute, on lui tire une balle, on est au Vietnam dans les années 70, personne ne saura rien et c'est sûrement mieux comme ça. Ce qui aurait d'ailleurs peut-être été la meilleure solution au final. Mais suivre ce personnage justement qui va à contre-courant de tous ces... de tous ces.
Ouais, on rétablit la peine de mort.
Non, c'est intéressant.
Waouh.
Ouais, ouais, ouais. Moi, je me désolidarise totalement.
Je
n'ai
rien à voir avec cette indivision.
En tant que juge, je ne peux accepter.
C'était la dernière intervention de Pierre dans la.
Non, mais c'était une suggestion, rien de plus.
Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, moi, mon point, c'est effectivement, peut-être qu'ils ont voulu rester et peut-être que le vrai diplomate, là, il est très gentil. Moi, ce que je disais, c'est qu'en termes de fiction, du coup, j'ai trouvé ça manichéen. Avec vraiment un mec un peu, on regarde un gars un peu béat en se disant, oh là là, il se démène, il fait tout par lui-même. Je suis à peu près sûr que dans la vraie vie, bon, j'ai pas été vérifié dans les détails, mais je suis à peu près sûr qu'il a été un peu plus aidé que ce qu'on nous montre là, même s'ils le font quand même pas mal en groupe à un moment. Bref, j'ai trouvé ça, en fait, ça souffre du même problème, encore une fois, que tout le reste, c'est-à-dire les personnages à qui on donne aucune motivation, on s'aventure jamais dans, mais pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils font qu'ils font, quoi.
Je pense qu'on lui donne vraiment une motivation. Alors, certes, il y aurait pu avoir plus d'exposition dans les 8 heures là-dessus, mais je pense que tu as clairement la notion et ce qui le motive, c'est vraiment ce feeling d'injustice. C'est-à-dire que lui, il a constaté un crime et tout le monde l'ignore. C'est-à-dire que pour lui, c'est évident. Son boulot en tant qu'ambassadeur, ça devrait être d'essayer de mettre en avant les intérêts de sa population, des membres de son pays, quoi. Et il voit que même son ambassadeur ignore complètement la disparition de deux de ses compatriotes. Et je pense que c'est lui, enfin, là, ça a déclenché une espèce d'étincelle en mode, mais moi, je veux aller au bout de cette histoire. Et quand il s'est heurté à des murs d'opposition au fur et à mesure de cette aventure, pour moi, c'est clairement ça, l'élément déclencheur et la motivation qui, j'ai trouvé assez évidente pour lui. Après, il y a peut-être plus de travail pour son personnage qui aurait pu être fait, mais malgré tout ça, je trouve qu'il nous donne un personnage très intéressant, assez crédible et motivé, quoi.
Sur le point de départ, pourquoi pas, mais tu vois, par exemple, on voit des scènes où 30 ans plus tard, tu vois, en tout cas dans la série, c'est lui qui est un peu à la manœuvre quand le gars, quand Sobhraj repart au Népal en 2003 et que tu vois, juste à temps, il retrouve un fichier dans les cartons qu'il a toujours à disposition. Tu vois, par exemple, ce type d'obsession-là, pourquoi, comment
Non, mais moi j'y crois, moi, j'y crois tout à fait. C'est-à-dire que tu t'imagines dans la situation, le mec, il a traqué pendant un moment. Je pense qu'il s'est senti investi d'une mission au bout d'un moment. Je pense qu'il a considéré ça, et ça se voit d'ailleurs dans les photos qu'il te montre à la fin, le mec tout sourire avec ses casiers. Moi, je pense qu'il s'est devenu presque l'œuvre de sa vie, quoi.
Mais du coup,
et qui s'est senti en mode de l'opposition de ce monstre.
Non, mais c'est ça que je dis.
Ça aurait pu être mieux illustré, c'est vrai.
C'est le bon truc là. Pour conclure le débat, les amis, merci beaucoup. Mais du coup, moi, j'en garde finalement une représentation entre la fiction et le documentaire. Du coup, il n'y a pas eu assez tout ce qui était permis par la fiction, donc les backstories, d'en ramener en fait pour peut-être créer quelque chose de plus. Il n'y a pas eu ça, et à l'inverse, le documentaire est du coup un peu plat, et du coup empêche vraiment de vraiment voir les horreurs, et dire à contrario du documentaire que t'as vu, Romain, qui sans doute va un peu plus dans les détails, plutôt brut, quoi. Du coup, ça manque un peu le coche aussi en ce sens-là. Pour avancer, il n'y a pas de Lulu aujourd'hui, notre robot IA, nous allons développer d'ailleurs en thread les mécaniques de Lulu. Alors il est en vacances à durée indéterminée, il reviendra peut-être, peut-être pas, mais je crois qu'Olivier, t'avais une histoire à raconter, tu l'as teasé dans lundi, dans le... Et du coup, je ne vais pas te lâcher, parce que alors, dans le débat, on ne peut pas tout placer, on est beaucoup, on essaie de le faire relativement court, mais Olivier, non, il n'y a pas Lulu, écoutons Olivier.
Effectivement. L'histoire, elle est simple, c'est que... Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que effectivement, c'est facile de se reconnaître dans ces victimes, d'autant plus qu'elles sont occidentales pour la totalité, c'est vraiment... ça pourrait être nous, quoi. Et effectivement, quand moi je suis allé en Inde la première fois, on était ensemble avec Romain et Thomas, on a voyagé, etc. Et j'ai rencontré une Indienne. Donc en fait, je me suis mis j'ai daté en Inde avec une personne que je connaissais depuis très 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 peu de temps. Et donc je me souviens me dire quand je leur dis je pars au rendez-vous, etc. Est-ce que t'es pas en train de faire une connerie, t'en sais jamais. Et en plus c'est des évidemment que quand t'es dans ce truc là tu te dis est-ce que je fais pas une connerie parce que je me mets en danger et que je connais pas bien la personne? Est-ce que je fais pas une connerie parce qu'en fait je connais pas bien la culture et j'ai peur de heurter potentiellement la sensibilité, la machin, enfin de pas savoir faire, quoi, etc. Mais j'ai bien fait puisque depuis cette tortionnaire est devenue ma femme, on vit ensemble et je guette systématiquement quand elle cuisine en me disant mais à quel moment je vais me retrouver drogué et j'aurai enfin le fin mot, tu vois. À quel moment?
Ah là, ce serait de l'investissement dans le Boscam.
C'est la drogue de l'amour, ça marche.
C'est beau.
Elle continue. Et dimanche, on va prendre une bonne... Je mange chez Olivier le lendemain de l'enregistrement de cette émission. Je vais regarder quand même. C'est... J'ai un
mais
petit peu
il faudra que tu prêtes attention. Mais donc voilà, tout ça pour dire que quand tu voyages et quand tu rencontres des gens, bah, t'es quand même dans l'abandon. Donc c'est pour ça que je dis que ça pourrait vraiment nous arriver. Et donc pour moi, être pour pouvoir tomber amoureux de cette personne et qu'on ait une vie ensemble, bah, il a bien fallu qu'à un moment, tu te dises... Bah, franchement, c'est pas safe. Si tu regardes sur le papier, c'est pas safe. Ben, j'y vais quand même, quoi.
Après, pour me rappeler de ce moment, on était, t'es quand même pas parti, genre, je vais bah, les couilles, quoi. On avait quand même, voilà, on avait
mais
quand
parce
même
qu'on a des moyens de communication.
Où... Ouais, voilà,
avait,
c'est ça.
On avait quand même un flingue sur toi. On peut se tenir au courant, c'était un peu différent.
Je savais où t'étais et tu m'as quand même contacté assez régulièrement, au cas où, quand même.
Ouais, ouais. Mais dans les années 70, en vrai, je pense qu'on.
J'étais dans un buisson. Tu m'as pas vu.
Tu l'as suivi. Romain l'a fait.
Tu vois, mais dans les années 70, en vrai, je pense que tu m'aurais dit,
Peace
Man, enjoy. Et puis, tu me revoyais ou pas, tu vois.
Mais d'ailleurs, dans ce même voyage, il y a un truc qu'on n'a pas fait. On avait été invité à une soirée, on n'y est pas allé. Bon, aussi parce qu'on se prélassait sur une piscine avec des
hôtels. Oui, c'est vrai.
Mais on a refusé un truc. Voilà, il y a une double raison. Voilà. Mais
et peut-être que vous avez très bien fait, du coup, on ne sait jamais.
Peut-être. Mais c'était la rue, ça s'appelle Knipect House. Non, comment ça s'appelle? Canit House.
Je sais plus.
Canit House.
Qui n'existe pas d'ailleurs.
En vrai, c'est parce que le mec nous a... Donc, il faut, juste pour donner l'histoire, hein, ce qui nous a fait paru bizarre, et surtout, en vrai, c'était la flemme, c'est que c'est une personne qu'on croise à, je sais pas, 300 km de Delhi, dans un café. On s'est jamais parlé à ce moment-là. On revient à Delhi quelques jours plus tard. On est dans le H&M de Delhi, et la personne veut nous parler... en train d'acheter des slips. Et le mec vient, enfin des caleçons pour moi, mais bon, bref. Le mec vient nous parler.
Il y en a qui s'est trompé, je dis rien, je sais pas de qui. Ouais.
Le mec vient nous parler en disant salut les gars, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, on était à 400 km de Delhi, on était dans le même café. C'est trop marrant, venez, on fait une soirée ce soir ou demain, je sais plus, venez avec nous, tu vois. Et donc, du coup, le truc, il paraît hyper chelou, c'est, tu vois, la probabilité. Dans un pays de 1,4 milliard de personnes, de retomber, que la personne te reconnaisse, te retrouve dans le H&M à 400 bornes et te dise, viens, on va faire une soirée, c'est quand même...
Le mec dans le buisson.
Et on n'y a pas été, mais c'était plus par flemme, en vrai.
Le mec dans le buisson. Vous n'avez pas croisé à quelques fois après?
Ah bah oui,
Benjamin se sent enfui, c'est sûr.
À l'aéroport, il était là, c'est lui. C'était très chelou. Mais du coup,
c'est marrant, ça,
les histoires de voyage, c'est super cool. Moi, pareil, alors je me suis pas marié avec lui, mais des rencontres comme ça, impromptues, un mec qui me tape sur l'épaule à Pondichéry et qui me dit, viens, tu vas m'aller chez moi, on part en scooter à 2 heures. Moi, je connaissais personne, pour le coup, personne me suivait ni rien. Ça aurait pu mal tourner. Bon, comme dit Olivier, les chances, voilà, en général, tu t'ouvres et c'est ça qui est beau dans le voyage. Donc, vivez, voyagez, voyageons quand on pourra. Alors du coup, j'enchaîne pas de jeu de Romain non plus, le jeu de la critique que vous connaissez, qui sera peut-être un jour un jeu mainstream, qui sait. Du coup, je voulais juste déclarer, faire une petite hola hein, pour Olivier, qui est le all-time winner, jusqu'à ce que le jeu reprenne, espérons.
Bravo.
Donc un jour,
pour l'instant,
en
toute légalité, ça changera vite.
Ouais, dans les règles.
Dans les règles.
Quand il y aura des règles, parce qu'elles sont adaptées pour que Olivier gagne à chaque fois, on va pas se mentir.
Tu vas pas gagner.
Elles sont biaisées. Avant de conclure et de se quitter, je vous propose la recommandation des chroniqueurs. Qui veut commencer? Qui a une petite recommandation pour nos auditeurs?
Bon, allons-y, hein, une fois n'est pas coutume. Moi, je recommanderais le youtubeur Durandal, qui est quelqu'un qui avant faisait des parodies audio de jeux vidéo, etc., que j'ai découvert très jeune, et qui maintenant, du coup, est critique cinéma. Et il fait des critiques essentiellement sur des films. Depuis le confinement, il a fait aussi quelques critiques sur des séries, donc pour être checké si vous êtes plus sérivore. Et je trouve extrêmement drôle, avec un ton un petit peu décalé. Il est un peu aussi, un peu comme nous, des fois, un peu dans ce côté un peu de la mauvaise foi. Enfin, pas de la mauvaise foi, mais l'exagération un petit peu fait exprès, mais très intéressant, je trouve. Et si jamais vous avez envie de critique film-série, je trouve ça très cool.
Je ne vois pas de qui tu parles. Qui exagère dans ce podcast?
Absolument personne.
Personne.
D'autres recommandations? Olivier.
Bon, j'enchaîne. Moi, j'ai un compte Instagram et un compte Twitter qui sont exceptionnels. C'est @critiquebiaisé.
Ah, j'y connais pas.
Ça serait bien de suivre. Parce que non, c'est bon, ça fait 3 mois, je le répète, que les gens, ils viennent pas.
M'énerve
à un moment. Bah, c'est trop bien, c'est fou. Il y a des news, des infos sur les séries. En temps réel, c'est exceptionnel. On peut parler, il y a des threads, mais vraiment, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Donc, venez.
Critiquebiaisé. Ce qu'il faut peut-être dire,
c'est une bonne idée, ça.
C'est qu'on a commencé à relayer pas mal de news, donc c'est pas juste on parle de nous, c'est vraiment on parle de cinéma et de séries en général. Donc en parallèle des podcasts, ça devient du coup un format trop bien quoi pour trouver
un média, un média à part entière avec
un média.
Bientôt il y aura même des extraits peut-être du podcast, qui sait, mais c'est... et une chaîne YouTube les amis, si vous nous écoutez YouTube. Sur YouTube, nous vous avons écouté, nous sommes sur YouTube également.
C'est ça.
Une autre recommandation.
Ouais, moi j'en ai une petite aussi également. C'est alors moi c'est une série, je suis désolé, hein. Je ne suis pas vos exemples, mais un peu dans l'idée, j'ai pas trop pu en parler, mais moi j'aime bien l'examen de ces personnes un peu atypiques et pas toujours très recommandables, psychopathes, sociopathes, etc. Et je trouve qu'une série qui le faisait beaucoup mieux et dans laquelle tu te prenais un espèce de plaisir malsain à suivre ces personnages qui fonctionnent tellement différemment de nous que moi je trouve ça assez passionnant. C'était Mindhunter. Et je pense que la série s'en serait mieux tirée avec un feeling un peu à la Mindhunter, et si vous êtes passé à côté de cette perle, moi je recommande vivement. C'est une très bonne série sur des thèmes un peu similaires.
Complètement, j'approuve à 100%. Super série, très haletante. Olivier, ta reco?
Ouais, je vais vous parler d'un compte Insta qui s'appelle Depth of Wikipedia. Depth comme profondeur de Wikipédia. Donc c'est un compte sur lequel vous avez en gros des captures d'écran issues de Wikipédia sur des sujets, mais ultra, enfin vraiment c'est quand tu rentres dans le loophole et que tu tombes sur des trucs trop bizarres, et donc c'est plein d'infos insolites du coup, d'histoires voilà, que tu tomberais pas dessus sauf à passer beaucoup de temps à te perdre sur Wikipédia. Et je trouve que c'est du coup un super compte pour découvrir des nouveaux trucs. Depth of Wikipedia sur Instagram.
Nice. Okay. Pour ma part, je vais vous parler d'un podcast européen qui s'appelle Seriland, par Eva Rock et son équipe, d'ailleurs avec qui nous avons conversé sur Twitter. Eva Rock, si tu écoutes ce podcast, bonjour. Je trouve que les invités sont méga quali, ça creuse le sujet, et d'ailleurs du coup ils ont pris le serpent récemment, du coup je l'ai écouté hier, et ça va vraiment dans les détails. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils font un parallèle pour dépeindre le monde réel et les faits sociaux, donc du coup ils vont vraiment creuser. Pour le serpent, ils vont en détail sur le true crime, ils ont pris ce truc là, ils l'ont explosé en parlant de plein d'autres séries, plein d'autres trucs qui se font sur Netflix et ailleurs. Et ils ont des invités, notamment là c'était une psychologue et criminologue passionnée par les tueurs en série, donc du coup elle a amené ce côté très sachant, et moi j'ai appris plein de trucs, notamment sur les psychopathes, les sociopathes. C'est vrai,
non, Benjamin c'est un sociopathe, c'est pas pareil du coup.
Voilà, personne ne m'a attrapé encore.
Je n'ai tué personne. Et du coup, voilà, plein d'infos contextuelles, très creusées. D'ailleurs, ils évoquent aussi New York Unité Spéciale et Mindhunter. Et New York Unité Spéciale, dont notre tribunal de la critique biaisée est inspiré, évidemment. Donc, Eva Rock, Seriland, podcast européen. Et c'est magnifique, la technique. C'est très, très beau. Voilà, les amis, pour cette fin sur le serpent de Critique Biaisée, le barbecue. Nous vous remercions énormément, et dans 15 jours nous allons nous atteler à regarder Love and Monsters, nouveau film Netflix qui buzz pas mal. J'ai vu le trailer, les amis, regardez-le, vous avez 15 jours pour le regarder, pour que vous puissiez nous écouter parler avec nous.
Moi, je suis prêt.
Déjà fait.
Moi,
incroyable.
Moi, je suis prêt.
Wow.
Et pour l'instant sans spoiler, mais ok, pas ok, yay, nay.
C'est charmant, voilà, je vais le dire comme ça. C'est charmant.
Ça suffira pour cette semaine. Merde. Si vous avez des suggestions sur les réseaux sociaux de trucs que vous voulez nous faire regarder, alors ça c'est, on est toujours 15 jours avant à la recherche de trucs. En général, on prend des trucs récents, mais si voilà, la foule lance un hashtag critique biaisée, que je veux que tu regardes ça sur les réseaux sociaux, bah peut-être voilà, donnez-nous des conseils.
Non, on ne le lira pas. on lira pas. Ça sera en 5 étoiles sur Apple Podcast.
C'est ça, minimum.
La conversation, les amis, oui, les 5 étoiles est bien, mais les conversations seront intéressantes sur les réseaux sociaux, c'est fait pour ça.
Pas ouf.
Alors, on va faire du post-prod sur Thomas, là, et on baissera son volume pour...
On l'enlèvera.
Ouais, on l'enlève, pour dire 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui nous aide le plus, et c'est ce qui nous aide à continuer, voilà.
N'est-ce pas ? Merci à tous.
Parlez-nous, les écoutez pas, parlez-nous.
Excellente semaine, et à très bientôt, à la semaine prochaine pour l'Apéroco. Ciao, ciao.
Au revoir.
Au revoir.